maire, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parole aux auditeurs sur la fréquence de la paix Radio Capi. Interdiction aux mineurs et aux femmes enceintes de circuler sur des taxis-motos à Kinshasa. Ceci découle de l'édit portant réglementation du transport par taxi-moto voté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'édit introduit des interdictions visant certaines catégories d'usagers, c'est notamment les enfants de moins de 12 ans, des femmes enceintes au dernier trimestre, les personnes en état d'ivresse, des personnes âgées non accompagnées. Le texte initié par le député provincial Nicolas Wemankoy a été adopté à l'unanimité. Les conducteurs des taxis-motos, communément appelés Wewa, assurent la mobilité quotidienne de nombreux Kinois. Cependant, ils sont accusés d'être à la base des cas d'accidents. Selon le texte adopté par les élus provinciaux, les motards qui enfreignent ces dispositions s'exposent à des sanctions, dont des amendes et la mise en fourrière de leurs engins. Le législateur a prévu une période de sensibilisation des motards avant l'application des sanctions préconisées. Par ailleurs, ce texte attend sa promulgation par le gouverneur de Kinshasa avant son entrée en vigueur. Que vous inspire cette mesure? Comment peut-elle contribuer à faciliter la mobilité de la population au regard des difficultés de transport? Quelles sont les pistes de solutions pour apporter des solutions durables dans les secteurs des transports? Parole aux auditeurs aborde cette problématique aujourd'hui avec l'initiateur de ce texte, les députés provinciaux Nicolas Wemankoy. Vos questions sont les bienvenues à pa@radiocapi.net au 81 32 34 883 ou 89 559 88 337. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. Je suis Jocelyne Moussaoupondé, je vous présente cette émission. Sylvain Baoguéré la met en onde, Nancy Atambo la réalise sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Esther Mamboté et Meshak Mboutamontou assurent le live sur nos réseaux sociaux.
Envoyez un message à vos proches partout au Congo. Déposez vos courriers auprès de la MONUC de votre province. Message Okapi, Africa. Écoutez-vous tous les jours sur votre radio.
Les mineurs de moins de 12 ans, les femmes enceintes au dernier trimestre, les personnes en état d'ivresse ou encore certaines personnes âgées, ces catégories pourraient bientôt être interdites de circuler sur les taxis-motos, communément appelés Wewa à Kinshasa. Une mesure issue d'un édit voté par l'Assemblée provinciale à l'initiative du député provincial Nicolas Wemankoy. Objectif, renforcer la sécurité routière, mais cette décision suscite déjà des réactions. Est-elle réaliste? Est-ce applicable? Et quelle alternative pour les usagers? Nous en parlons avec son initiateur qui est dans ses studios, Nicolas Wemankoy. Bonjour, monsieur le député, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, madame.
Et quelle est la motivation principale derrière cet édit, monsieur le député?
Au fait, je fais partie de Congolais. Je suis à Kinshasa depuis...
Vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro pour
je suis à
Kinshasa
depuis 2002. Mm-hmm. Je prenais assez de motos et je continue à les prendre. Mm-hmm. Et j'ai constaté que malgré que le taxi-moto, c'est un moyen de transport qui aide beaucoup les Kinois à se déplacer pour contourner les embouteillages. Mais ce moyen de transport est devenu aussi une opportunité pour les criminels de bien opérer. Aussi, ces moyens de transport, bien que ça aide les Kinois, commencent à créer des embouteillages et que dans ce domaine, il n'y a pas de loi. Le code de la route que nous avons date de 1978, alors qu'à ce moment-là, les taxis-moto n'étaient pas un moyen de transport urbain. Et comme notre constitution dit que la régulation est de la compétence de la ville, c'est comme ça que j'ai jugé bon de mettre à la disposition des Quinoises et des Quinois un cadre juridique adéquat pour réglementer quand même ces secteurs, parce que derrière chaque moto, il y a une famille qui se nourrit. Mm-hmm. Derrière chaque moto, il y a quand même un jeune qui a refusé de faire la délinquance, mm-hmm, et qui a pris ses métiers comme son job pour nourrir sa famille, pour scolariser ses enfants. Il fallait alors les valoriser, vu les tracasseries que nous voyons sur la rue. Des fois, il y a des motards dont leur moto sont ravis. Mmh. Il y a des cas de motards qui sont tabassés. Il y a des amendes forfaitaires, imaginaires, mmh, qui sont imposées en violation du principe de la légalité des délits et des peines. Vous vous souviendrez que pour qu'une peine soit peine, il faut que le législateur puisse le prévoir. Mmh. Pour qu'un comportement soit interdit, le législateur doit le dire. C'est comme ça que, comme on était dans un monde sans loi, il y avait la jungle, chacun faisait ce qui est bon le semble. C'est comme ça que j'avais imaginé. Pour encadrer ce secteur-là, mmh, il faudrait une loi pour encadrer les droits et obligations des motocyclistes, mais aussi imposer des mesures de sécurité pour protéger les Quinoises et les Quinois.
Et qu'est-ce que cet édit vise à résoudre ? Est-ce un problème de sécurité sur la route, un problème de santé ? Qu'est-ce que vous comptez améliorer ?
L'édit vise d'abord à valoriser ces métiers. Parce que les motards, de fois, sont regardés négativement. Mmh. Négativement, alors que les données que nous avons montrent que nous avons approximativement 500 000 wewa. Mm-hmm. Si chaque wewa contribue avec 500 francs, multiplié par 500 000 wewa, ça, mm-hmm, peut nous faire une affaire de 100 000 dollars le jour, mm-hmm, à terme de taxes de stationnement. Vous multipliez par 26 jours ouvrables, ça va vous faire au moins 2 600 000 dollars. Mm-hmm. Et donc, ce capital humain mérite d'être valorisé, capitalisé, pour offrir quand même à la ville les finances de sa politique. L'édit aussi vise à résoudre un problème de la tranquillité routière. Nous avons des sérieux problèmes d'embouteillage. Vous connaissez que la loi dit que nous avons un avis du travail, mmh, mais des fois, un Quinois peut quitter chez lui pour arriver à son travail, peut-être avec un retard de 2 heures, 3 heures, 4 heures.
Oui.
Et donc, il fallait résoudre ces problèmes. Ces problèmes sont dus du fait que, des fois, ceux qui se mettent pour conduire les motos n'ont jamais appris, mm-hmm, les règles générales de circulation.
Ils ne connaissent rien du code de la route.
Du code de la route, mm-hmm, dans une avenue de la cité, quelqu'un peut dire non, démarre ici, mm-hmm, après une semaine, vous le voyez sur la rue, mm-hmm, pour transporter nos enfants, pour stationner là où ils veulent. Mm-hmm. Il fallait régler ces problèmes d'embouteillage. Quoi qu'on peut dire qu'il y a moins de routes, mais s'il y a assez de la discipline, je pense qu'on peut bien réguler ces problèmes. Mmh. Il y a également les problèmes de la sécurité. Vous voyez que partout, il y a les problèmes de bandits armés. Comme avec les embouteillages, ça pénalise un peu les criminels de, mmh, prendre les véhicules, mmh, pour opérer les crimes. Ils ont profité du fait qu'on n'a pas un effectif, un registre provincial digitaliser des motocyclistes, mmh, ils profitent de cette ambiguïté pour commencer à utiliser ces moyens de transport pour opérer vite et disparaître. Mmh. Et donc, il fallait également régler ces problèmes de sécurité. Mmh. Il y a aussi un problème de tracasserie, comme je venais de le dire. Une profession doit être encadrée par une loi. Et l'État devrait être celui qui garantit les droits et libertés des citoyens. Mmh. Le motocycliste, au-delà du fait qu'il a des obligations, il a aussi des droits. Il a le droit, l'État doit garantir quand même sa dignité humaine. Mmh. Vous voyez comment ils sont tabassés. Des fois, il y a des gens qui sont mis à nu, leurs motos sont ravis. C'est comme si les véhicules des cabassés ne sont venus que pour arrêter les motocyclistes, prendre leur moto, alors qu'à mon humble avis, la police est là pour protéger la population ainsi que leur bien. Mmh. La protection de la population ne passe pas par la tracasserie, ne passe pas par l'extorsion de leur moto, ne passe pas par la taxation des amendes imaginaire. C'est comme ça qu'il fallait régler les problèmes. L'amende doit être légale.
On y reviendra, monsieur le député. Le temps pour nous de prendre nos auditeurs en ligne. Ils sont déjà nombreux à attendre pour intervenir dans cette émission. Pierre Moussafiri, je nous appelle de Goma. Nous avons aussi Rémi Bantou, Kia Lumbashi, Pati Maïmba Bandundu, Honoré Lobo depuis Kikwit. Nous commençons par Pierre Moussafiri depuis Goma. Bonjour. Activez votre micro, Pierre Moussafiri, pour qu'on puisse vous entendre. Non, c'est toujours pas activé, Pierre Moussafiri. Rémi Bantou, nous allons prendre le coup de fil de Rémi Bantou, qui est à Lubumbashi. Rémi, n'oubliez pas d'activer votre micro avant de prendre la parole. Bonjour.
Bonjour, Radio Cap. Bonjour à l'équipe. Ouais. Avant tout, je tiens à remercier et toute décision parmi vous, celle de protéger la vie de Kassa, tout moto, gouvernement de l'Union, ont impliqué dans de nombreux accidents. Et il est vrai que les enfants, les femmes enceintes, les personnes fragiles, ont posé des problèmes graves. Cependant, cette mesure telle qu'elle est présentée aujourd'hui pose un réel problème de faisabilité sur les. En réalité, l'auto présente pour beaucoup de clients le moyen de transport le plus accessible, le plus rapide et parfois le seul disponible surtout dans les quartiers d'enclave. Interdire leur usage dans certaines catégories de, sans proposer une alternative concrète et bien à compliquer davantage la vie quotidienne du citoyen. Imaginez aussi les femmes enceintes qui doivent se rendre en urgence dans une zone où il n'y a ni tapis. Et peut-être, imaginons aussi un parent qui doit transporter son enfant à l'âge rapidement. Cette mesure risque de créer plus de difficultés sur le temps si elle n'est pas accompagnée.
Malheureusement, Rémi Bantou, on peut pas continuer à vous garder, mais on retient que vous posez la question sur les alternatives hein, qu'on propose à ces catégories de personnes, vu que la moto reste le moyen le plus accessible et le plus disponible, surtout dans certains quartiers de Kinshasa. Merci pour votre intervention depuis Lubumbashi. Pati Maïmba est à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour Madame Moussao, bonjour à votre invité qui est député provincial. Nous saluons son courage transcendant. C'est que nous s'attendons de nos parlementaires avoir un courage comme ça. Mais ce que je peux ajouter dans son carquois, qu'il aille au-delà, parce que nous remarquons aussi en route, il y a des injures. Il faut faire même aux passagers les injures. Donc, je pense que notre député a oublié qu'il insère aussi les injures qu'on remarque sur la voie publique, les taximènes, les motards. Donc, les injures, vous pouvez les apprendre, vous pouvez noter tout un carnet d'injures, seulement quand vous sortez en route. C'est un comportement aussi qu'il faut dégager. Mais là où j'ai pensé un peu à raisonner, et je peux raisonner à haute voix maintenant, je trouve que notre député, il semble débarquer dans ce pays ce matin ici. Pourquoi je dis ça? Il connaît la cause qui pousse les gens à prendre des motos. Mmh. Il y a un problème des routes. Hein. Il y en a pas, surtout chez vous là qui font ça. Mmh. Il y a des routes. La capacité de Kinshasa a été construite. Cette ville a été construite, si je peux dire, par rapport à la densité qu'il y a maintenant dans cette région. Mmh. C'est les jours et la nuit. Donc, il fallait revoir aussi les routes qu'on construit. Il y a aussi des engins de l'État. Lui est député. connais ça bien. L'État n'a pas de moyens de transport qu'il a disponibilisé parce que la catégorie d'enfants qu'il a indexé là, ce sont les enfants majoritairement qui vont à l'école. Les familles trop pauvres que nous sommes avec la consommation et les politiciens sont en train d'inoculer sur nous. Je pense que ces familles-là courent dans des petites motos, quelque chose comme ça, par manque de, des engins que l'État a mis à la portée de sa population. Et si nous pouvons aller dans le secteur des transports, je trouve qu'il nous faut que les députés nationaux prennent ce cas. Ils nous appellent le ministre des Transports. Madame Moussaou, si on pouvait comptabiliser le nombre de morts qu'on a fait dans ce secteur, surtout dans des engins comme des baleinières, des histoires en bois qu'on a collées avec des gros moteurs. Madame, si nous comptabilisons, depuis le début de l'année jusqu'à ce matin ici, je pense que si on était dans un pays des hommes, ces ministres-là ne pouvaient pas continuer là. Et surtout, là, dans leur type de l'union, là, quand on fait m'appeler un ministre, ils empêchent aux députés de raisonner. Voyez un peu ça. Donc, si on est dans un pays sérieux, comme je disais dans les hommes, le ministre des Transports, il peut expliquer pourquoi les baleines continuent à marcher même de manière tardive.
Merci, Patty Maïmba. Mais nous parlons de cette réglementation sur la circulation des motos dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons noté vos préoccupations. L'invité va y répondre tout à l'heure après l'intervention d'Honoré Lobo qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour. Honoré Lobo n'est plus... Il est là. Veuillez activer votre micro, Honoré Lobo, si vous nous suivez depuis Lubumbashi. Est-ce qu'il est là? Non. En attendant d'autres réactions, nous allons répondre à Patty Maïmba et à Rémi Bantou. On nous apprend que Jonathan est aussi en ligne. Jonathan, dites-nous, vous nous appelez depuis quelle ville?
Voilà, bonjour Madame Jessie.
Bonjour Jonathan.
Scolastique.
Merci, merci Jonathan. Vous nous appelez depuis Lubumbashi. Allez-y, hein, on vous écoute. Quelle est votre contribution à cette émission? Quelles sont vos questions à notre invité?
Oui, Madame Jocelyne. En fait, avant de dire oui ou non à cette interdiction, il est bien sûr de notre plein droit de savoir si les étapes à observer avant d'interdire quoi que ce soit ont été prises en compte. En droit constitutionnel, on fait état de quelques étapes à considérer avant de faire une interdiction. Entre autres, identifier clairement le problème, réunir des preuves statistiques, étudier les conséquences et prévoir des solutions de remplacement et j'en passe. Alors, ici à Lubumbashi, comme là-bas à Kinshasa, l'embouteillage reste un refrain social qui est à la base de beaucoup de maux. Je prends le cas de ma belle-sœur, la femme à mon grand frère, qui avait connu une crise hémorragique alors qu'elle était déjà à terme de sa grossesse. Alors, d'après l'échographie, elle avait un tel choc de matrice que son hôpital de CPN s'est déclaré incompétent au point de faire un transfert. Donc, c'était tellement urgent que les corps soignants nous pressaient de fouter vite le camp. Alors, engageant la route pour l'hôpital de transfert, on s'était rendu compte que l'embouteillage ne nous aurait pas permis de respecter l'urgence. Les moyens de transport qui a été nécessaire n'étaient rien d'autre que la moto. Sinon, il aurait dû être passé à cause de l'hémorragie, d'ailleurs, interne. Considérant tout ça, Madame Jocelyne, deux questions me viennent à l'esprit. La première est celle de savoir quelles mesures a-t-on prises pour les habitants des quartiers enclavés où les routes sont impraticables pour les bus et les taxis? Deuxième question, pourquoi interdire, ne fût-ce que les femmes enceintes et les mineurs de moins de 12 ans? Est-ce pour autant dire que les personnes âgées et celles vivant avec handicap seront se sauver des risques des accidents des motos. J'ai remé les micros, madame. Merci.
Merci. Merci beaucoup, Jonathan, pour votre question depuis Lubumbashi. Nous avons également Christian Bouy qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour, Christian. Non, Christian n'est pas là, mais Honoré. Christian n'a pas activé son micro, Honoré non plus. Christian, vous êtes en ligne, Christian Bouy, activez votre micro et prenez la parole.
Ok, allô, bonjour.
Bonjour Christian, quelle est votre question, votre observation, votre contribution à cette émission et vos questions à notre invité?
Ok, merci pour ma participation. En fait, mon intervention c'est situé au niveau d'un manquement par rapport à l'édit. Voyez, l'édit en soi est bien fait, j'apprécie, mais il fallait aussi prendre en compte une disposition pour réglementer les augmentations de prix. Vous savez, aujourd'hui, nos motocyclistes, à chaque fois qu'il fait soir, ils ont notre prix, le matin notre prix, pendant qu'il pleut notre prix. Tout ça donc, il faut une disposition réglementaire,
oui.
Hein, une disposition réglementaire qui corrige cela. Et puis, d'une façon à sanctionner ceux qui vont toujours augmenter. Et par rapport aux embouteillages, je crois que l'EDI va essayer un peu de corriger. Mais sinon, s'il y a embouteillage, il y a faille au niveau de la police de circulation. Vous voyez, c'est un peu mon intervention.
Merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé depuis Kinshasa. Est-ce que Honoré est avec nous? Honoré Bantou? Non. Oui, oui, il est là. Il est en ligne. Hein. Il peut prendre la parole et son micro est déjà activé. Bonjour, Honoré Bantou.
Bonjour, bonjour.
Honoré Lobo, c'est pas Bantou, c'est Lobo. Merci de nous avoir appelé. Et quelles sont vos questions à notre invité? Honoré, vous êtes déjà en direct, hein, vous pouvez prendre la parole. Votre micro à nouveau fermé, Honoré. En attendant, on va répondre à la première série de questions. Les auditeurs sont plus restés sur la question des alternatives hein, que peuvent proposer les députés ou l'initiateur de cet édit. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les quartiers enclavés? Il y a Patty Maïmba qui est revenue sur l'impolitesse des conducteurs d'une manière générale. Des motards, et surtout remarquer, enfin, de tous les conducteurs, que ce soit des chauffeurs de particuliers ou de taximen. Et puis, une question sur les statistiques des accidents par moto et d'une manière générale, est-ce que vous avez pu avoir, vous avez des chiffres, des statistiques là-dessus? Pourquoi avoir fait le choix des enfants et des femmes enceintes? Qu'en est-il de personnes vivant avec handicap? Et la question de Christian Bouy sur le prix de la course qui n'est pas régulée, voilà, qui dépend de temps, des circonstances, du temps qu'il fait, de la tête du client. Monsieur le député Wembo,
Oui, Mankoy.
Voilà, allez-y.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Je remercie d'abord tous les auditeurs pour l'intérêt qu'ils ont accordé à cet édit qui vient résoudre un problème. Et voici ce que j'ai retenu. Le principe est que les motocyclistes ont la liberté de circuler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ça m'étonnerait qu'un auditeur dise que qu'est-ce que nous pensons de quoi reculer. Comme
Oui, mais dans un coin reculé où il n'y a que la moto et la femme enceinte qui veut se déplacer.
Je pense que l'État est un parent responsable. Lorsqu'un parent responsable interdit à son enfant de jouer avec les couteaux, de jouer avec le feu, ce n'est pas parce que les parents n'aiment pas cet enfant. Mmh. C'est justement pour sauver sa
mais
vie.
Il lui propose autre chose pour l'occuper, par exemple.
Comme vous savez, je parle d'abord de la femme enceinte. Mmh. La femme est porteuse d'une vie. Elle est alors, à ce moment, une personne invulnérable. Elle doit être prise en charge par l'État. Les précautions doivent être prises lorsque nous estimons que elle est à terme, il y a un moyen de transport approprié pour ça. Mmh. Et l'État ne peut pas légaliser l'impunité. Et en droit, il y a ce qu'on appelle un cas de force majeure. Lorsqu'il y a un cas de force majeure, en tout cas, les gens ne viendront pas me demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'il y a un cas de force majeure, il est autorisé à chaque Kinois, à chaque Kinois, à chaque Congolais et à chaque Congolaise de violer volontairement la loi. Parce qu'il y a un cas de force majeure. Et le cas de force majeure exonère l'auteur de sa responsabilité parce qu'il y a une valeur supérieure à sauver. Et dans ce cas de force majeure, s'il y a l'urgence pour amener la femme et la enceinte à l'hôpital, il ne se poserait pas un problème. Mais lorsque la femme enceinte, à terme, n'est pas malade, n'a pas une urgence sanitaire, elle ne peut pas être sur la moto, vu son état de vulnérabilité, au cas où il y a un mouvement et qu'elle est tombée sur la moto, on va perdre et la maman et l'enfant. Entre l'urgence pour se rendre au travail.
Mais on sait que l'intention elle est bonne, hein, monsieur le député. Mais quand on parle de disposition des alternatives, on sait par exemple pour dans des pays où on prend en compte les personnes vivant avec handicap, par exemple, il y a des dispositions qui sont prises dans les transports en commun, dans les toilettes publiques. On sait que c'est prévu. Voilà, il y a des dispositions qui sont prises en amont. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la femme enceinte qui doit se déplacer malgré son état et qui peut pas? Pour sa sécurité aussi,
nous avons
qui ne peut pas prendre la moto.
Tous avec vous, avant que les motos ne viennent, on s'est déplacé. Il y avait des embouteillages, on s'est déplacé. On s'est déplacé avec quoi? Avec des véhicules.
Mais la ville de Kinshasa qu'après. N'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va de Maluku à Lutendele.
Bien sûr, la ville n'est pas devenue vaste aujourd'hui.
Elle est plus occupée.
Elle est vaste depuis longtemps.
Ouais, mais elle n'était pas occupée.
On s'est déplacé avec vous. Sans les wewa. Et donc, lorsqu'une femme enceinte n'est pas malade, l'État estime que, à cause de l'amour que l'État a pour cette femme, elle doit se protéger dans un véhicule. S'agissant de l'enfant mineur, je crois que tout ce qui se raconte n'est pas l'édit. Il faut lire l'édit. L'édit dit que un enfant de moins de 12 ans non accompagné. C'est le concept des fois qui échappe les gens. L'enfant de moins de 12 ans ne peut pas supporter les mouvements seuls sur la moto. Il fallait un adulte derrière qui les protège. Dès lors qu'il y a un protecteur derrière, un adulte, il ne se pose pas un problème. Mais il est inadmissible, avec la conduite des motocyclistes, de tolérer qu'un enfant de moins de 12 ans soit derrière les motocyclistes, qui double comme il veut, qui prend toute la vitesse comme bon le semble, que cet enfant soit en danger. Ceux qui critiquent les dits, de manière constructive, je suis d'accord, mais de manière négative, je ne suis pas d'accord dans la mesure où, si chacun d'eux a déjà perdu un enfant, une femme enceinte, dans ces conditions-là, ils seront les premiers à soutenir cet édit. Mais nous ne voudrions pas qu'il y ait d'aide pour qu'on obtienne le soutien. L'idée ici, c'est de garantir la sécurité. La sécurité est au-dessus de tout. J'accepterai que ma femme soit licenciée du travail parce qu'elle est venue en retard, en montant sur les véhicules, parce qu'elle est enceinte à terme, qu'elle a laissé monter sur la moto pour que je la perde, pour que je puisse perdre aussi mon enfant qui est dans son ventre. J'accepterai que ma fille de 8 ans soit chassée à l'école parce qu'il n'y avait pas un adulte pour l'accompagner, qu'elle a laissé partir seule pour que j'apprenne qu'elle a connu un accident.
Mais qu'en est-il de nombre de passagers? Parce que les enfants, on en voit sur les motos, oui, mais 3 à 4 sur une moto. Est-ce que l'édit prévoit quelque chose par rapport au nombre de passagers sur une moto?
L'édit dit qu'aucune moto ne peut transporter au-delà de 2 personnes. Parce que l'engin a été créé avec du tonnage précis. Si vous allez au-delà, n'est-ce pas, du poids possible, ça va d'abord amortir vite la moto, mais également ça va créer un déséquilibre. Encore qu'un médecin nous a dit que pour les hommes qui montent sur là où on met les carburants, s'appelle, je crois, le réservoir, si un homme monte régulièrement sur le réservoir, il peut devenir un impuissant sexuel. Ça a été prouvé parce que du carburant chauffe le corps, et si vous maintenez à cet état-là plusieurs jours, vous pouvez devenir impuissant. Alors que pourquoi les motocyclistes montent sur les réservoirs? C'est parce qu'ils mettent au moins 3 ou 4 personnes derrière. Ils seront obligés de pousser au-delà de sa chaise, vraiment au risque de sa vie et de la vie des autres.
Mais concernant les femmes enceintes, comment un motocycliste, un motard peut vérifier qu'une femme est au dernier trimestre?
Je pense que les signaux, c'est trop difficile.
Mais les grossesses ne se ressemblent pas, monsieur le député.
C'est le principe. Oui. Le principe est que lorsqu'une femme est à terme, en tout cas c'est ses voix, elle est fatiguée. Je suis marié, madame, et j'ai déjà hébergé de grossesses.
Mais ce n'est pas peut-être le cas pour les motards.
Les motards sont des responsables, ils ont des femmes à la maison.
Il y en a qui sont très jeunes.
Oui, très jeunes, mais ils ont de l'expérience, ils ont des parents. Ils savent que maman, à cet âge, à cet état
on
ici...
On se fie seulement sur l'apparence de la femme
enceinte.
C'est
sur l'apparence parce que je ne pense pas qu'il y ait des dispositifs à mettre en place pour vérifier l'état de la grossesse. Mais tout est question de la responsabilité.
Et même pour l'âge, hein, des mineurs, hein, des enfants. Il y en a qui ont moins de 12 ans, mais qui font 14. Comment savoir que c'est
un enfant d'accord, de... Je suis d'accord, tout est question de la responsabilité. Même les problèmes qu'on décrit ici, de l'impolitesse, ainsi de suite, c'est un problème de responsabilité. Nous, l'État, nous avons les devoirs d'aller vers le motocycliste, les faire voir qu'ils sont utiles pour nous. Ils sont utiles pour les Congolais, ils sont utiles pour les Quinoises et pour les Quinois. Mais il y a des choses impérativement qu'il faut respecter. Votre vie, elle est sacrée. Vous êtes utile pour votre famille, pour votre femme, pour vos enfants. La manière dont vous allez vous mettre sur la rue va déterminer votre avenir. Vous pouvez devenir handicapé physique, vous pouvez laisser votre femme veuve, vous pouvez laisser vos enfants orphelins. Et donc, nous allons faire des sensibilisations pour responsabiliser les Ouïwa. Pour les injures, je pense que ce n'est pas à l'édit de criminaliser les injures. Il y a déjà le code pénal qui sanctionne les injures publiques. Toute personne qui est insultée a le droit de saisir les juges pour demander réparation à cause de son honneur qui est alors terni. Et donc, j'estime que avec le concours de tout le monde, et nous allons y parvenir. Et donc, je crois avoir répondu.
On a parlé de la régulation des prix aussi.
Pour les prix, la compétence, elle est d'attribution en matière administrative. Vous savez, l'édit se trouve dans le domaine de la loi. Il y a des domaines. Il y a le domaine de la loi, il y a aussi le domaine du règlement. Et nous, l'édit, c'est une loi provinciale. La loi provinciale ne se limite qu'à énoncer des principes généraux. Parce que les prix changent selon les contextes, le législateur a voulu que les prix soient fixés par le domaine du règlement. C'est comme ça que l'édit a dit dans un article que les ministres ayant les transports dans ses attributions déterminera les itinéraires, mais aussi les prix de la course. Mais également la vitesse requise pour un motocycliste. Parce que si l'édit dit que de Kitambo jusqu'à Lupen, c'est 500 francs. Mmh. Admettons qu'il y a dévaluation monétaire ou qu'il y a évaluation monétaire. Vous allez voir que il faut que les ministres puissent commencer à changer. Alors que l'édit, comme une loi, a une vie pérenne, a une vie longue, alors que les règlements peuvent être changés selon le contexte, parce que les faits précèdent toujours le droit. Lorsque les faits changent, le droit doit aussi changer.
Est-ce que l'édit a pensé aux personnes vivant avec handicap, qui sont aussi vulnérables que les enfants et les femmes enceintes?
Ça dépend de l'handicap. Si l'handicap est moral, je pense que elle est comme une personne vulnérable et doit être accompagnée. Même l'handicap physique, ça dépend du degré de l'handicap. Si la personne est encore capable de se sécuriser sur la moto, elle peut librement monter sur la moto, mais si l'handicap est grave et que la personne peut se trouver vraiment en difficulté de se soutenir lorsqu'il y a un mouvement, ça demande impérativement que la personne soit accompagnée.
Merci, monsieur le député. On va prendre d'autres réactions. Maître Omar nous appelle depuis Kinshasa. Maître Omar, bonjour. Veuillez activer votre micro et prendre la parole.
Bonjour, madame Jocelyne. Bonjour, monsieur le député.
Oui, bonjour. Vos questions sont les bienvenues.
Merci, madame Duver, pour venir étudier. Le rôle d'un député, c'est celui de voter les lois au profit de la population et de contrôler les gouvernements. À ce titre, je salue la démarche de l'honorable Wamankoy. C'est rare, depuis que l'Assemblée provinciale existe, de voir un député qui réfléchit et qui apporte des solutions. Donc, pour cela, nous les félicitons. Alors, Lady, voter en six jours, vos opposants d'or. Il vient vraiment à point nommé, madame Jocelyne. Moi, je vous rencontrer dans les Daudox. Et mon tas, c'est Chamaï. Moi, j'étais transporté par l'autre. Il insulte son collègue. Il m'insulte aussi les clients. Donc, moi, quand le client est le Gmabé. Donc, ce sont des gens qui brillent par l'impolitesse qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Il fallait une loi pour réglementer. Alors, les députés ont cité l'absence des casques, l'absence d'hygiène, le dépassement de la vitesse. Moi, mes inquiétudes sont au niveau de l'application. Michel Allot disait, la loi n'est pas seulement ce qui prévoit le texte, mais ce qu'en font les acteurs. Madame Jocelyne, il existait déjà des mesures par rapport au secteur de motards. Les nombres des gens à transporter est déjà prévu. On n'a jamais respecté. Je prends le cas des gros véhicules. Une mesure a été prise. Les gros véhicules doivent circuler de 22h à 5h. Ils circulent même à 15h. Donc on n'a pas un problème de texte, monsieur le député. Après avoir initié et voté, il faut de mesures efficaces pour contrôler. Voilà pourquoi moi je propose, de manière humble, des solutions d'abord urgentes. La première, il faut commencer préalablement par la sensibilisation et la vulgarisation de cet édit. Nul n'est censé ignorer la loi sur le principe, mais une loi n'est connue que si elle est accessible, intelligible. Alors, il y a des lois qui sont écrites en français, qui sont affirmées au journal officiel, que le peuple n'en maîtrise pas. Donc, c'est le premier travail à faire. Car en droit, lorsqu'on ne vulgarise pas une loi, on ne peut pas l'appliquer à une personne. Ce qu'on appelle en droit la contrainte irrésistible. Deuxième chose, il faut un contrôle rigoureux. J'apprécie aujourd'hui, on n'a pas seulement le rôle de critiquer la brigade routière. Autant que faire, c'est peu. On sent que les gens respectent, ils achètent les permis de conduire, on fait ceci, même s'il y a des abus, mais on sent quand même que ces contrôles ont produit des effets, et sur le plan financier, et sur le plan de la réglementation. Troisième chose, il faut des sanctions exemplaires. J'ai lu votre édit, il y a des sanctions qui sont prévues. Mais au Congo, on a comme l'impression, la sanction n'existe plus. Le but de la sanction, c'est de dissuader quiconque voudrait faire la même chose. Ces motards sont amis des policiers, ils conduisent sale, ils ne font rien, ils ne mettent pas de casque. Alors, même si l'édit est écrit dans la langue des anges, si on ne sanctionne pas, rien ne se fera. De manière lointaine, parce qu'il faut structurer les choses. Il faut améliorer les conditions de vie des Congolais. Parmi les causes qui font qu'il y ait beaucoup de moteurs aujourd'hui à Kinshasa, c'est que les gens fuient la province pour venir vivre ici. Au-delà des conditions, des solutions urgentes, il faut des solutions lointaines et structurelles. Si les gens sont bien dans leur province, on n'aura pas cet afflux. Deuxième solution lointaine, il faut réhabiliter les routes. S'il y a des injures, s'il y a le non-respect, tout cela parce que les routes sont étroites. Vous avez parlé des cas de force majeure. Et la journaliste, madame Moussa, vous a posé des questions évidentes. Il y a des quartiers. Moi, j'ai été récemment vers Kikole la Barbe. Il y a des quartiers qui ont des routes détruites
il n'y a pas de véhicule et le seul moyen de déplacement, c'est la moto. Que voulez-vous qu'une femme enceinte qui veut accoucher fasse à 0 heure? Vous avez parlé d'un cas de force majeure. En droit, c'est un cas imprévisible, insurmontable et irrésistible. Donc voilà pourquoi je salue votre démarche. J'encourage le gouvernement à en appliquer, mais il faut des solutions lointaines et structurelles. Améliorer les conditions des vies des Congolais, ils resteront chez eux et la ville sera fluide. Réhabiliter les routes pour que tout le monde puisse circuler librement, parce que la frustration des fois vient des routes qui sont détruites et détériorées. Voilà, madame Moussa, où j'ai dit, et je vous remercie.
Merci, maître Omar.
Et par rapport à l'handicap mental, ça se déclare pas comme ça. En droit, pour déclarer quelqu'un malade mental, il faut un certificat médical signé par 3 médecins. Il y a des Congolais qui parlent trop, qui ont des indices de malades mentaux, mais pas qu'ils sont handicapés. Donc, c'est un problème sérieux. Pour déclarer quelqu'un handicap mentalement, il faut qu'il y ait une attestation médicale signée par 3 médecins.
Merci. Merci, maître Omar. Merci pour votre intervention depuis Kinshasa. Nous allons rejoindre Thomas Ougen, qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour, Thomas. Veuillez éteindre votre poste récepteur et avant de prendre la parole.
Bonjour madame Jocelyne et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Bokato. Merci beaucoup de la parole nous accorder madame Jocelyne. Moi je passe ici au pays, il y a un sérieux problème, c'est pas le problème de la loi comme le prédécesseur venait à peine de dire, mais c'est l'applicabilité qui pose un sérieux problème. Avant même qu'il y ait, en tout cas, c'est le dit ici, le secteur des transports, on avait déjà les codes de la route. Lorsqu'on ne sait même pas d'abord respecter la loi ou ce qui existe d'abord, qu'est-ce qu'on aura dit que prochainement, on peut respecter ce qu'on peut prévoir après. Lorsqu'on respecte d'abord ce que nous on a, ça pose un problème. C'est un problème, c'est pourquoi nous avons un problème là d'éducation civique quelque part également, parce que madame Jocelyne, si vous circulez, la façon dont certaines femmes ou filles passent sur la moto, c'est aussi un sérieux problème. On ne sait pas comment est-ce que la mentalité là, on ne comprend pas. Parce que quand j'étais à Bounia également, j'avais constaté ça, et même à Kisangani, les habitudes là, peut-être à Kisangani chez vous également, ça continue toujours. Et à la base, avec ça, on crée également des accidents par la façon dont vous asseyez sur la moto, madame Jocelyne. Ça, quelque part, l'éducation aussi joue un sérieux problème, où l'éducation a joué quelque part là, parce que lorsqu'on est bien éduqué, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas également faire au niveau de la société pour un peu créer d'autres problèmes là pour rien. Comment est-ce que vous êtes normal, vous asseyez mal là aussi lorsque vous êtes aussi la voie publique, c'est un sérieux problème. Vous créez aussi d'accidents pour les autres. Et maître Omar a parlé ici de la sanction même. Je suis d'accord avec maître Omar. Mais lorsque une personne est en infraction, c'est toujours ces agents-là, si on les donne de l'argent, on les donne de l'argent et ils vont laisser la personne également quelque part. La corruption aussi entre la ligne de compte dans ça. Une personne peut être... La police voit que cette personne est ivre, par exemple, au volant. Mais il suffit que le chauffeur puisse donner quelque chose et c'est fini. On laisse la personne. Alors, ivre, livrer son volant, vous ne pouvez pas conduire. Mais on les voit passer par là, quelqu'un est ivre, et il prend le volant, il est sur la voie publique. Parce que j'ai un témoignage, quand c'est madame Jocelyne, j'ai perdu mon père suite à un cas d'accident. Avec un monsieur qui était ivre au volant, qui était ivre là, et il s'y crée comme tout ça. Je ne comprends pas dans ce pays, madame Jocelyne. C'est témoin ici. Mon père a été victime de ce problème-là, madame Jocelyne. Comme solution pour citer, pour laisser également la place aux autres. Solution à court terme, madame Jocelyne. Moi, je pense qu'il faut rapprocher d'abord la loi, et là, il faut la dégager, comme le maître Omar l'a dit. Mais à court terme, pour moi, il faut renforcer également les prises publiques. On sait qu'il y a ça, il y a beaucoup des habitants. Il y a beaucoup également de montants là, mais si on peut avoir des transports en commun, comme par exemple le bus, ça peut également être comme une solution d'attacher. À long terme, ce qui est là, c'était par rapport à la solution à court terme. À long terme, madame Jocelyne, il faut également qu'on puisse développer d'autres voies de transport, pourquoi pas même les trains, madame Jocelyne. Mm-hmm. Et quoi, ça peut être également la solution qu'a tassé.
Merci beaucoup Thomas Ouguen. Depuis Kisangani, nous allons terminer cette série de questions avec Ben Cheke qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, maman journaliste.
Merci de prendre
Alors,
la parole.
Moi, je suis vraiment très content de cet édit parce qu'on est tellement victime quand on conduit à Kin. Merci et félicitations à l'honorable député. Alors, j'avais juste deux petites questions à poser parce qu'il est plus expérimenté. Premièrement, je voulais savoir si ces conducteurs-là des taxis moto que nous avons à Kinshasa sont formés. Est-ce qu'il y a une école vraiment spécialisée pour la conduite de la moto? C'est la première question. Parce que lui, il a quand même travaillé. Il ne peut pas proposer le dit sans savoir ce qui concerne la conduite des motos. Je sais qu'il y a des chauffeurs, nous passons à l'école, nous autres, nous formons, il y a l'auto-école et le permis est là. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une école à Akin ou à RDC spécialisée pour la formation de la moto? Aussi, j'aimerais juste, c'est une question de curiosité s'il a pensé à ça. À qui profitent les amendes que nous payons? Est-ce que c'est aux agents de l'État qui sont soumis à la route là, qui les policiers, tout ça, ou c'est vraiment pour l'État? Est-ce qu'il a pensé à cet édit et mécanisme qui doit accompagner ces amendes, ou la collecte de ces amendes, même si tout ce qui est prévu, mais la pratique est telle que nous connaissons, je pense qu'il serait important d'y penser, parce que ce serait encore une tracasserie de plus, peut-être, mais c'est quand même une initiative, c'est louable. Et la petite requête que je formule au député, simplement, en tant que citoyen, mouvement citoyen, tout ce que ça peut faire, c'est de vraiment appartenir à cette équipe de vulgarisation de cette loi, de cet édit, voulais-je dire, pour que ces derniers motards, comme on les appelle à Kin, soient informés et que nous aussi nous soyons informés pour éviter tous les problèmes. Parce qu'il y en a des lois comme Maître Omar a dit, mais l'application pose problème. Et les agents de l'État qui sont souvent sur la route profitent dans l'ignorance, par l'ignorance, et cela nous amène à des tracasseries chaque jour. Mais c'est louable, ce qu'il a proposé. Ces vies ailleurs, d'autres villes, on voit comment est-ce que les motards se réglementent, comment ils sont réglementés. On peut juste calquer le modèle et l'appliquer dans cette ville. Je ne vais pas retourner sur tout ce que les autres ont dit. Vraiment, c'est louable, mais voilà un peu mes deux préoccupations. Merci.
Merci Ben Cheke de nous avoir appelé depuis Kinshasa. Monsieur le député Nicolas Wemankoy, vos réponses à nos auditeurs. Où apprend-on à conduire la moto à Kinshasa, qui profite les amendes? Est-ce que ces amendes n'ouvrent pas la porte à des abus ou à la corruption, comme vient de dire Ben Cheke? Et comment comptez-vous faire la sensibilisation?
Merci beaucoup. Je les remercie d'abord d'avoir appelé parce qu'ils ont trouvé de l'intérêt dans ce que nous faisons. Je voudrais d'abord répondre à ceux qui pensent que le Congo n'a pas le problème des lois, le Congo a forcément le problème de l'application de la loi. Lorsqu'on parle de l'application, c'est que la loi devrait, en principe, au préalable, exister, parce que on ne peut pas appliquer un vide. Et donc, la première étape devrait être de mettre en place une norme dans ces secteurs-là. L'application va dépendre de vous, de moi, parce que nous avons trois pouvoirs. Je suis du pouvoir législatif, j'ai fait ma part comme législateur, et les gens du pouvoir exécutif doivent aussi faire leur part comme gouvernement, et le pouvoir judiciaire, y compris la police, doit aussi faire sa part. Et donc, et ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Et donc, la loi doit d'abord exister et doit d'abord s'adapter au contexte congolais. Après, ensemble, nous allons suivre son application. J'ai beaucoup aimé ce que Maître Omar a dit. Les sanctions doivent être exemplaires. Il a parlé de la sensibilisation. Il a parlé d'améliorer les conditions, ça c'est des solutions lointaines, construction de routes, ainsi de suite. les sensibilisations. Nous sommes déjà à la phase de la sensibilisation. Je suis à la radio Capi, et l'une des meilleures radios d'Afrique,
merci,
pourquoi pas du monde, et la radio crédible, et je suis venu sensibiliser. Et si je ne venais pas ici, peut-être ils n'allaient pas comprendre ce qui est dans les dits. Et donc, j'ai commencé ailleurs. Aujourd'hui, je suis venu ici. Nous allons faire de notre mieux pour traduire cet édit, même en langue nationale. Même, pourquoi pas, dans les dialectes.
Faire le terrain aussi. Hein, parce
je veux que faire le terrain dans tous les coins de la ville de Kinshasa. Je vais imprimer cet édit. Je vais distribuer aux Wewa et aux policiers. Ça sera leur Bible. Vous voulez m'arrêter? Je suis d'accord. Vous m'arrêtez conformément à quelle disposition. Pas que le droit n'est droit que lorsqu'on sait les revendiquer. Lorsque vous ne connaissez pas vos droits, vous ne saurez pas les revendiquer. Nous allons parler avec les Wewa. On va faire des approches anthropologiques, des approches criminologiques. Parler avec ces gens, ce sont des humains. Ils sont capables de nous écouter. Et le dernier auditeur a dit, et est-ce qu'il y a des écoles où on forme les Wewa? À ma connaissance, parce qu'avant de soumettre la loi, j'ai approché la majorité d'organisations de motocyclistes. Les grands organisateurs, je les ai approchés, on a échangé avec eux. Et cette loi reflète réellement la codification du besoin du peuple. Et aussi attendre cette loi. Parce qu'ils sont fatigués des amendes inventées, ils sont fatigués des infractions inventées, ils attendent cette loi aussi pour se voir sécurisés. Et donc, ici au Congo, il n'y a pas une école où on apprend à conduire la moto. Les gens font ce qu'on appelle l'autodidacte. Mais cet autodidacte doit être encadré. On ne peut pas autoriser à quelqu'un de prendre la chaussée sans pour autant maîtriser ne fût-ce que les règles générales de la route. Il faut au préalable être formé dans les centres de formation de l'État, si ça existe, ou dans les centres privés, mais alors agréés. Ceux qui sont sous la chaussée, qui n'ont pas appris, doivent être recyclés. Parce que la vie, la sécurité, ce sont les choses non négligeables. Et donc l'État, qui est le régulateur, doit imposer des sanctions pour l'intérêt supérieur de la nation. Je sais que la loi n'est pas forcément douce. La loi vient briser nos habitudes. Mais, pour l'intérêt général, on est obligé de conscientiser les motocyclistes, obligé de conscientiser la police et les agents du transport que cette loi soit leur Bible pour le bien-être des Quinoises, des Quinois, mais également des motocyclistes.
Merci beaucoup, Monsieur le député Nicolas Wemankoy, d'avoir été notre invité. Nous saluons également les internautes qui ont réagi à notre page Facebook. Ingénieur MK Pierre Moussafiri qui nous a écrit. Patricien Landry, médaille d'or, nous a écrit depuis Kinshasa. John Louessa, Gracia Bakajika, Patti Maimba, nous l'avons entendu. Costa Rica Kabea, Eminent Mwanda, Blaise Saïdi, merci pour vos commentaires et à vous, chers auditeurs, merci pour vos réactions. Entre impératifs de sécurité et réalité de terrain, la question du transport à Kinshasa reste un défi majeur. Réglementé, oui, mais encore faut-il proposer des alternatives viables, comme l'ont souhaité plusieurs auditeurs. Les débats restent donc ouverts. Merci à vous tous de votre fidélité à Radio Okapi.